Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut les amis.
Salut.
Ah
Charline.
Bah voilà, ça quoi? Y est, enfin avoir une émission en prise avec la vie réelle, la vraie vie.
Quoi. Ah bon? On reçoit qui?
Pas une actrice apparemment.
Ah justement si, une actrice du changement.
Oh. Ah bon, ça sent la philosophe béninoise.
Ah pas du tout, c'est quelqu'un qui en plus de penser agit.
Bon, c'est qui cette héroïne là?
On reçoit une enseignante en milieu carcéral, paf, voilà.
Ah.
Allez, Sylvie Paré.
Bah nous aussi on sera prêts.
Ouais.
Ah ouais, c'est ça. Bah, j'espère bien parce que je vous le dis, moi la société civile, il y a que ça de vrai.
Oui, hein. Bah donc on va inviter que des gens pas connus.
Pas que, il faut donner du sens à notre métier.
Non mais d'accord, mais la prison, tu vas un peu fort quand même Charline.
Mais pas du tout, en plus elle est au plus proche du terrain.
Oui, bah moi aussi j'y vais tous les jours sur le terrain.
Oui, bah justement, c'est important que nous les médias, on se rende compte de la réalité. Sylvie Paré, elle est en prise avec le réel.
Le boulanger aussi est en prise avec le réel.
Et elle pourra nous apporter un témoignage précieux sur la vie en prison.
Et pourquoi pas Nabila? Elle pourrait aussi nous apporter un témoignage précieux sur la vie en prison.
Ah, c'est pas faux, Nabila aussi, elle est en prise avec la réalité. Avec la télé-réalité.
Mais ça n'a rien à voir. Ici, on a une personne qui aide les autres. Je vous le dis, la société civile, c'est la clé.
Ah bah le dernier qui a dit ça, c'est Macron, je l'ai remarqué.
Oula, excusez-moi, j'ai un SMS, j'ai problème de chauffage.
Oui, non mais parce que tu... Non, mais en plus, elle est géniale. Elle a sorti un livre, elle explique tout, tu vois.
Oh, cool, c'est réglé.
Il t'a aidé?
Tiens, bah ouais, tu penses qu'il m'a aidé. Sans lui, c'était l'inondation dans tout
le monde. Ah, bah c'est bon, Charline. Le mec a œuvré pour qu'Alex vive dans un monde meilleur. On invite son chauffagiste.
Ah bah ouais.
Et hop.
Bonjour, la France Inter. Vous écoutez la Start-up émission. Ce bar PMU de la blague qui croyait voir débarquer l'avion de chasse de l'actualité. Et voici les trois informations qui jouent les barrages alors que c'est un Lorient. Plus qu'une semaine avant le bac. Et quel est l'établissement qui l'an dernier a compté 100% de réussite au bac? La maison d'arrêt de Nanterre. Avec 7 bacheliers certes, mais les 7 sont bien partis pour la réinsertion dès leur sortie.
C'est ça la puissance intellectuelle. Bac plus 2 les enfants.
Les dispositifs de participation citoyenne fleurissent partout, c'est même devenu un marché pour les start-up. D'ailleurs, conformément aux souhaits du gouvernement, les prisons ont aussi organisé leur grand débat.
Bon, bah on enchaîne, à qui le tour? Enfin, arrêtez de tirer des coups de feu quand vous voulez prendre la parole.
Et pour qui ont-ils voté ces détenus aux européennes? Car on vote en prison et on vote essentiellement pour la France insoumise et le Rassemblement national. Un peu comme aux États-Unis où en prison on repère facilement les femmes qui ont voté Trump.
Je connais les latinos parce que mon quartier est juste à côté du leur. Ils vivent à 20 dans le même appart, ils font encore plus de gamins que les Irlandais, leurs femmes ont une grosse poitrine, leur bouffe pue à mort et ils nous volent tous nos emplois.
Et c'est international. Voici celui qui rêve de brève à travers les barreaux de l'actualité.
Oh là,
d'Alex Vizorek.
Mais bonjour Charline Vanhoenacker. Eh bien laissez-moi vous présenter la belle équipe que j'ai mis dans la cellule. À 17h20, celui qui a déjà participé à de la torture dans certaines prisons en diffusant ses disques préférés, c'est Chewbacca, bonjour.
Bonjour Alexandre.
Bonjour. Un peu de menace. Comment allez-vous?
Bah, très bien.
Et de quoi on va parler?
Eh bien écoutez, de choses que vous ne connaissez pas.
Bah, comme d'habitude.
Didi Chao.
Eh bien très bien.
Je me
réjouis de découvrir.
Réjouissez-vous.
Oui, je me réjouis. 17h30. Celui qui, à force de gagner de l'argent en critiquant les nantis, va finir plus riche qu'eux. Le Arsène Lupin de la vanne, Guillaume Meurice.
Bonjour à tous. Je vais vous parler d'environnement. Je suis allé voir des gestionnaires de patrimoine pour savoir si les riches allaient sauver le climat.
C'est des questions philosophes, ça.
Eh oui, et Platon n'est toujours pas coté au CAC 40, donc on ne sait pas.
Et enfin, 17h40, celle qui fait partie des Picards célèbres, avec Jean-Pierre Pernaut et Éric Woerth. Même si elle choque les gens différemment, c'est vous, Constance.
Bonjour à tous.
De quoi qu'on va parler?
Je vais vous parler d'enfants. Et ce week-end, j'étais invitée à un anniversaire et j'y suis allée avec mon chien, qui s'appelle Raoul, et il a léché tous les enfants. Du coup, maintenant, je l'ai appelé Michael Jackson. Et voici celle qui passe des portes du pénitencier pour intégrer l'Open Space. Vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer, vous êtes
Sylvie Paré.
Oui!
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek.
Par Jupiter.
Bienvenue dans Par Jupiter, Sylvie Paré.
Merci.
Vous êtes enseignante à la maison d'arrêt de Nanterre et directrice du centre scolaire. Il y a 2 ans, vous avez raconté cette expérience dans un livre coécrit avec votre collègue Cécile Deram, qui travaille avec vous à Nanterre. Un ouvrage intitulé « L'école en prison, une porte de sortie » paru aux éditions du Rocher et qu'il est toujours possible de se procurer. Et on va parler avec vous de l'enseignement en prison. C'est un milieu qui est pour nous très curieux, très évidemment fermé, donc on a envie d'en savoir plus. Déjà, combien de détenus y a-t-il à Nanterre et combien sont scolarisés, Sylvie Paré?
Alors, il y a actuellement 1000 détenus à Nanterre pour 592 places et à peu près 250 détenus scolarisés par semaine.
Ah oui, donc c'est un bon score de scolarisation. Alors, comment est-ce qu'on devient enseignante en prison, Sylvie Paré? C'est un choix?
C'est un choix, oui, parce que les élèves se posent parfois la question en disant « qu'est-ce que vous avez fait pour venir là ?» Non, c'est vraiment un choix.
Elle vous pose la question.
Oui, c'est vrai, oui, ça les surprend. C'est un choix, c'est même assez difficile. Il faut passer une spécialisation pour adolescents et adultes en difficulté d'apprentissage. Et puis, après le choix, c'était d'enseigner à des adultes, d'enseigner dans un milieu particulier. Ça faisait 20 ans que j'étais dans ce qu'on appelle l'ordinaire et voilà, j'avais envie de découvrir autre chose.
Et ça permet de s'affranchir de certaines règles de l'éducation nationale, c'est-à-dire des programmes peut-être, de certaines circulaires. Ça permet finalement, vous êtes plus libre.
Oui, effectivement, paradoxalement, moi je suis plus libre, enfin les professeurs en général, on est plus libre pour déjà... On n'a pas le carcan de l'école, des parents au-dessus de nous. Enfin, c'est voilà, ce sont
des. Il n'y a pas les parents d'élèves.
Non, il n'y a pas les parents d'élèves, mais c'est vrai que ça libère.
Ouais. Et dans la méthode aussi, dans la méthode d'enseignement, parce que c'est des classes tout à fait hétéroclites, j'imagine.
Voilà, ce sont des classes tout à fait hétéroclites, pas forcément, non, parce que en fait, à Nanterre, il y a un quartier de mineurs et un quartier majeur. Les mineurs, ils sont que 18. Là, c'est des petits groupes de 4-5, très hétéroclites. Ça va du jeune qui ne sait pas parler français, un autre qui sait à peine lire, jusqu'à celui qui prépare son bac. Donc, avec 4-5 élèves, c'est vrai que c'est assez disparate. Chez les majeurs, c'est plus structuré en classe à peu près classique, quoi. Par contre, l'enseignement ne l'est pas, puisqu'on s'adapte à chaque difficulté, chaque compétence de chaque... Enfin, on a vraiment un enseignement différencié.
Ouais. Vous enseignez plein de matières différentes ou vous êtes spécialisé dans...
Ah ben non, il y a des professeurs de français, de maths,
Non.
Est-ce que pour être éligible à l'enseignement dans la prison, est-ce qu'il faut passer une sorte de test, de casting est-ce que tout le monde, chaque détenu qui veut apprendre à l'école avec vous, peut y aller ou
non.
Il faut quand même passer des épreuves?
Alors les mineurs, c'est obligatoire, donc eux, ils y vont tous. Ils aimeraient bien que ce ne soit pas obligatoire d'ailleurs. Et les majeurs, non, il n'y a pas de place forcément pour tout le monde. Alors, ça se mérite de venir à l'école. C'est-à-dire qu'en général, il ne faut pas avoir de compte-rendu d'incident, CRI. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir cette battue, il ne faut pas avoir dealé, il ne faut pas... Dans la prison.
C'est-à-dire que l'heure de colle en prison, ça a une autre notion.
Ouais. Voilà, c'est qu'on ne vient pas à l'école.
C'est ça. Est-ce que vous essayez de savoir quels délits ont commis vos élèves? Ou est-ce que justement vous préférez pas savoir? Ou est-ce que c'est une règle d'ignorer ou de fin d'ignorer?
Oh, c'est pas une règle, c'est pas une obligation. Avec l'expérience, franchement, je pense ça sert à rien de savoir pourquoi ils sont là.
Le petit Nordal, par exemple, en anatomie, ouais. Pas mauvais.
Patrick Balkany en calcul, là, vous l'attendez avec impatience.
Oui, bientôt. Non, c'est pas forcément. En fait, on a un regard d'enseignant. Tout le reste de la prison a un regard sur eux. Ils savent pourquoi ils sont là, etc. Que ce soit les conseillers d'insertion, tout le monde, quoi. Nous, les enseignants, je vois pas très bien l'intérêt qu'on ait en plus cette information-là. Une fois, je l'avais eu. Ça, c'est un peu la double peine, en fin de compte, pour lui, parce que mon regard avait changé. J'étais scandalisée par ce qu'il avait fait, en fait, alors que je m'y attendais pas du tout. Et ça sert à rien.
Et Charline vous demandait si eux étaient éligibles à venir vous donner, enfin, à vos cours. Est-ce que vous, à l'inverse, vous avez dû suivre des préparations psychologiques très différentes d'autres collègues qui devraient donner des cours normalement?
Enfin, je dis normalement. C'est un petit peu différent quand même. C'est vrai, ne serait-ce que la distance qu'on doit avoir, etc. Donc, on a une formation à Agen, à l'ENAP, l'École nationale d'administration pénitentiaire. Donc, on est mélangé avec les gens de l'administration pénitentiaire. Parce que l'école, c'est vraiment l'éducation nationale. Hein. Ils nous prêtent les locaux, mais on est vraiment indépendants. Mais bon, on a quand même cette formation parce que c'est un milieu tellement particulier. Et puis, pour pouvoir rentrer comme prof aussi, je crois qu'il faut montrer un peu patte blanche. Il doit y avoir une petite enquête sur nous à chaque fois.
Et est-ce que vous en avez revu après, des élèves, une fois qu'ils sont sortis de prison et qu'ils viennent vous revoir pour vous remercier ou pas, d'ailleurs?
Ouais, j'ai une jolie histoire. La semaine dernière, j'avais un ancien élève qui m'attendait avec un bouquet de fleurs devant la prison. J'avoue que là, j'étais très émue. S'il m'écoute, je le salue.
Sylvie Paré, je rappelle que vous avez publié L'école en prison, une porte de sortie avec Cécile de Rame aux éditions du Rocher. Je rappelle aussi qu'il y a une bibliothèque à la prison de Nanterre, que Bernard Pivot donne beaucoup de livres.
Oui, d'ailleurs, on va aller chercher la semaine prochaine.
Ah, voilà. Et chez nous, à France, Radio France, il y a une association qui passe, qui s'appelle Souvent les livres, et qui vient récupérer pas mal de bouquins qu'on reçoit ici, et qui vont notamment les donner en prison, mais pas que. Souvent les livres, ça s'appelle, vous pouvez aller voir sur Internet. On est en zonzon jusqu'à 18h, mais c'est avec Sylvie Paré, c'est chouette et on apprend plein de choses. Par Jupiter, sur France Inter. Alabama Shakes, Future People, un titre choisi par Djoubaka qui est avec nous aujourd'hui.
Qui pourrait aussi donner des disques pour la prison, donner un maximum de disques.
Il garde tout, hein, garde tout pour lui.
Eh oui, nous sommes en compagnie.
Des matos, c'était pour...
Pardon ?
Non, rien, je répondais à Alexandre.
Allez-y, répondez-lui, que tout le monde entende.
Je disais qu'il fallait qu'ils aient le matos déjà et que les scuds puissent circuler en sachant que les disques peuvent être dangereux des fois.
Les livres, c'est plus simple en prison.
C'est plus simple.
Ouais. Sylvie Paré est avec nous. Elle est enseignante à la maison d'arrêt de Nanterre et directrice du centre scolaire qui scolarise un quart des détenus, alors que la maison d'arrêt est en grosse surpopulation, c'est quasiment le double, par rapport au nombre de places. Sylvie Paré avec nous, et pour l'entourer, Alex.
Vous avez entendu Djoubaka, ouais. Vous entendrez Guillaume Meurice et surtout Constance.
Oui.
Bien évidemment.
Je suis Jupiter,
tu l'as déjà dit.
Le journal de presque 17h17.
Vous n'avez pas écouté.
Et on commence par les titres.
La présidente du groupe LR à la mairie de Paris, Florence Berthoux, quitte à son tour les Républicains.
Ah, ce rythme-là, chez les Républicains, il restera autant de membres que de cheveux sur la tête d'Éric Ciotti.
Les Français sont appelés à donner un nom à une exoplanète située à 144 années-lumière de la Terre.
Oui, quelque chose situé à 144 années-lumière des Français. C'est dommage que Jupiter soit déjà pris dans l'espace.
Et des brèves.
Bah voilà, voilà.
Bah voilà quoi.
Bah c'est un super nom de planète. Et des brèves.
Bien sûr, bien sûr.
Je vais te proposer.
pas si mal.
On va où? Sur les brèves.
Ouais, c'est pas mal,
c'est super. Commençons par Emmanuel Macron, qui hier était à Ornans, dans le Doubs, pour le bicentenaire de Gustave Courbet.
Gustave Courbet, le peintre à qui l'on doit, entre autres, bien sûr, l'origine du monde.
Et c'est vraiment pour ça que Macron lui a rendu hommage. Parce que,
ah, pardon?
Bah, Macron et Courbet, tous les deux, c'est quand même avec de la chatte qu'ils ont fait une belle carrière.
C'est brillant, ça.
Ouais, pardon, Alex,
c'est vraiment brillant.
C'est pas d'ailleurs. Manu n'a pas été très reconnaissant.
Et puis aujourd'hui, nous nous retrouvons là, pour ce bicentenaire de la naissance de Gaston Courbet, dans un musée de Gustave Courbet.
Et on salue Gaston aussi, qui était quand même un type bien.
On salue Gustave Dreyfus également. Continuons avec Elisabeth Borne.
Oui, ministre des Transports, qui nous a fait une belle annonce ce matin chez Jean-Jacques Bourdin.
On a adopté un amendement qui dit qu'à chaque fois qu'on fait une publicité pour une voiture, on doit passer un message pour encourager les transports en commun.
C'est brillant, brillant, mais oui. Mais d'un point de vue marketing, c'est brillant.
Oui. Ah bon,
si vous mettez une image du RERC en heure de pointe bloquée à cause d'un incident de voyageurs sur une publicité de voiture, bim, tout le monde veut acheter la voiture. C'est génial, c'est génial.
Écologie, toujours. Le Canada va interdire les plastiques à usage unique dès 2021.
Et du coup, se pose la question... À quelle température ça se lave un préservatif?
Bon, c'est malin ça, parce que c'est déjà bien d'interdire les plastiques à usage unique.
Oui,
enfin.
Oui, c'est vrai que c'est pas mal. Ah, mais oui. Si le Canada veut vraiment poser un acte fort pour l'humanité, il devrait interdire les chanteuses à usage multiple.
C'est pas fou. Alors ce matin, oui. Sur France Inter, l'invité de Léa Salamé, c'était l'entrepreneur et essayiste et humoriste Mathieu Laine.
Oui, on l'a tous beaucoup aimé, Il a déclaré à propos de la jeune activiste Greta Thunberg.
Je ne suis effectivement pas très fan de cette jeune personne qui nous donne des grandes leçons de morale et qui ne va pas à l'école alors qu'elle ferait mieux d'y aller.
Quand on voit le niveau d'argument d'un mec diplômé de Sciences Po, on se dit qu'aller à l'école, au fond, c'est pas à la grande garantie.
People à présent, oui. Son avion sans l'essence, Michel Houellebecq fait faux bond à un festival littéraire à Belgrade.
Et oui, c'est bien connu, Michel Houellebecq ne plaisante pas avec l'hygiène.
Sport à présent, le basketteur Tony Parker annonce mettre un terme à sa carrière sportive.
Tant qu'il ne nous fait pas une Noah, c'est bon. Quoi.
Il a fait une belle carrière d'entraîneur, Noah, après.
Ouais, il a fait une carrière de chanteur aussi, Noah.
C'est pas faux non plus, ça. Et des brèves.
Un homme reste en érection 9 jours suite à un accident de la route et... Je fais une blague ou ça va aller? Non, en même temps, après un grave accident, on doit toujours bander. Et blessure.
Bien sûr, j'avais pas.
C'est pas mon genre, grivoiserie, je n'aime pas ça. Elle croit aller aux toilettes et ouvre en fait l'issue de secours du Boeing 777. Oui, c'est pas de bol. Oui, mais il y avait marqué en cas d'urgence, alors bon, c'est pas rendu compte.
Il est 17h25 à Fleury-Mérogis. Vous écoutez France Inter et par Jupiter. Sylvie Paris est avec nous. Elle enseigne à la maison d'arrêt de Nanterre. Elle est directrice du centre scolaire. Et on va aborder avec vous ce premier thème. Plus d'une semaine avant le début du bac, cette saison où la jeunesse reste cloîtrée entre les quatre murs de sa chambre, tel un détenu du savoir, alors que le savoir libère les détenus. C'est joli, non?
C'est incroyable.
C'est vraiment très très fort.
C'est
à Nanterre.
C'est pour ça qu'on ne vous a pas vu pendant 2 heures cet après-midi. Je me disais, qu'est-ce qui est fou? Elle préparait sa phrase.
À Nanterre,
certes. Mais ça valait le coup.
Hein. Oui, je sais. On me l'a dit avant, mais toute l'équipe me l'avait dit, il m'avait pas revenu. Alors à Nanterre, certes.
Concentrez-vous.
Vous pouvez peut-être la redire.
Moi, j'aimerais bien la réentendre.
Oui, ça nous fait plaisir.
C'est la saison où la jeunesse reste cloîtrée entre les quatre murs de sa chambre, tel un détenu du savoir, alors que le savoir libère les détenus. C'est le cas à Nanterre avec Sylvie Paré.
Vous pouvez la réécouter en podcast.
C'est beau.
La blague est pas.
Certains s'apprêtent à passer les épreuves aussi à la prison. Et la prison affiche un haut niveau de réussite d'ailleurs. L'année dernière, c'était 100% de réussite au bac.
Pas mal.
Allez, aperçu de la grande satisfaction au sein du corps enseignant à la maison d'arrêt de Nanterre.
Plus de 80% de réussite à l'examen. Vous pouvez être satisfait. C'est un record.
Mais si je comprends bien, monsieur le surveillant général, vous m'annoncez avec le sourire que nous avons eu plus de 20% de recalés. Vous êtes un éternel insatisfait, monsieur le directeur.
Monsieur Morisot, il faut exiger le maximum pour maintenir la tradition d'une maison comme la nôtre. Voilà.
Un extrait du film Les Grandes Vacances. Alors, passer le bac en prison, est-ce que ça ne se fait que à Nanterre?
Ah non.
Ça se fait ailleurs?
Non. Dans toutes les prisons, si par exemple en plus un élève arrive en cours de scolarité et qu'il est inscrit au bac à l'extérieur, il passera le bac à l'intérieur.
Très bien, dénoncer le Figaro étudiant dans lequel j'avais lu que ça n'était qu'à Nanterre.
Non, à Nanterre, on passe un bac pro gestion et administration intégralement puisqu'on a intégré les stages. Okay. ce qui est un peu plus compliqué puisque donc tout le monde doit fournir du travail à nos élèves de façon à ce qu'on valide le stage.
Ah, voilà. Très bien.
Question Twitter de Claude qui s'intéresse au dossier. Comment fait-on pour les sorties scolaires à Nanterre?
Ah, eh bien, il y en a.
Ah,
bah dites-nous.
Voilà, bonne question.
Bah ouais.
On les a emmenés au Louvre. Alors là, c'est surtout la coordinatrice culturelle, Marie-Laure Gré, que je salue, qui s'occupe de ça. Donc elle les a emmenés au Louvre, à l'Orangerie, au Théâtre des Amandiers. Oui. Donc oui, il y a des sorties. Mmh. Et il y a même un groupe qui est allé à l'ENA pour préparer un concours d'éloquence avec les élèves, les étudiants de l'ENA.
Voilà. Oui, parce que quitte à être voleur, c'est mieux de passer par l'ENA parce qu'on ne se retrouve pas en prison. Et ça, c'est important de le dire aux jeunes qui veulent faire ce métier.
Comment ça s'organise le bac en prison concrètement, Sylvie Barré? Est-ce que ça se passe au même moment que dans toutes les écoles? Est-ce que les conditions sont différentes? Comment vous faites?
On essaye de faire, d'être au plus proche des conditions normales. Donc demain matin, par exemple, je vais chercher les sujets de bac comme tout le monde. Voilà, je vais mettre les sujets au coffre, comme tout le monde. Et lundi matin, on ouvrira les enveloppes devant les élèves, comme tout le monde, à leur dite. Voilà, et ils ont le même temps. Enfin oui, ce sont à peu près les mêmes conditions. Ce qui peut être plus compliqué pour eux, d'un seul coup, enfin s'il y a un parloir avocat qui est absolument nécessaire, ils seront obligés de s'interrompre.
Il y en a qui c'est là que l'avocat passe les réponses. Qu'est-ce qu'on fait?
Eh ben non, il revient pas.
Hein. Ah, ouais, bien sûr.
D'accord.
Non, quand même. Non, on le fait vraiment dans les conditions.
Et il y en aura combien cette année? Vous pensez qu'ils vont passer le bac? Vous avez le chiffre à la prison de Nanterre?
J'en ai 5.
Ah, 5. Mmh. Très bien. Et on vise 100% de réussite. Que les 5 réussissent.
Alors oui, je croise les doigts. Ça peut être un petit peu plus compliqué que l'année dernière. L'année dernière, on avait vraiment d'excellents élèves. Ils ont eu des mentions et tout. C'était super. Mais bon, c'est pas grave. On y croit, hein, là, quand même.
Et l'annonce des résultats, ça se fait comment? Il doit y avoir quand même une émotion, une émulation, j'imagine, même dans les classes, parce qu'il y a les brevets, il y a plein d'épreuves qui se passent, il n'y a pas que le bac.
Non. Et l'annonce des résultats, bah, c'est très émouvant. Enfin, ils sont vraiment comme nous quand on a eu le résultat de notre bac, quoi, super heureux, ils pleurent. Enfin, voilà, c'est un moment assez fort, c'est un moment qu'on aime bien partager tous les profs avec eux, parce que c'est... On a travaillé toute l'année pour ça, quoi, quelque part.
Il y a même une remise des diplômes qui se fait.
Il y a une remise des diplômes en général fin septembre, très officielle, avec la directrice académique, la chef d'établissement. Enfin, il y a vraiment beaucoup de monde. Et les familles sont invitées à venir aussi, à rentrer dans la prison pour la remise de ces diplômes. Donc, c'est aussi un moment très fort où j'ai tendance à verser ma petite larme, j'adore.
Sylvie Paré, qui a publié « L'école en prison, une porte de sortie » avec Cécile de Rame aux éditions du Rocher, si vous voulez approfondir le témoignage et l'expérience d'une enseignante dans une maison d'arrêt et directrice du centre scolaire également. Djoubaka, parlons musique, justement.
Eh bien, justement, oui. Hein, dans le jeu des 7 familles de la musique, il y a du monde donc sur la ligne de départ, donc la famille compositeur, la famille producteur. Mais rassurez-vous, rien n'est figé, puisque depuis une paire de décennies, on a une nouvelle famille qui a pointé le bout de son nez, ce sont les diggers, celles ou ceux qui creusent ou passent en vacances à fouiller dans des milliers de vinyles oubliés dans un entrepôt perdu au fond d'un bled, la perle rare. On pourrait ranger aussi dans cette catégorie les hunters, les chasseurs de titres. Alors leur boulot consiste à retrouver des enregistrements inédits d'un artiste mort et enterré depuis un bail, hein. Et eux, ce sont des vrais détectives. Par exemple, ils refont ville par ville la tournée d'un mec qui a tourné dans les années 50, mais ils font tous les studios, les trucs de radio, etc. Et ils trouvent des choses. C'est comme ça qu'on a nos titres d'Elvis Presley chaque année inédits. Voilà. Donc il y a des mecs dont c'est vraiment le taf. Et puis, il y a des exceptions. Parce que les diggers ne sont pas forcément partageurs. Heureusement, on en a des généreux de chez ces... Oh, c'est vachement dur à dire. Ces chasseurs de trésors. Et là, on dit Hosanna au plus haut des cieux. Et en France, on a un label, Acufone, qui a été créé par Fabrice Algéry, qui s'intéresse autant à la zizique qu'à son histoire géopolitique. Et c'est quand même le seul label que je connaisse qui a à son catalogue le chant de la libération cambodgienne. En un disque, vous avez toute l'émotion d'un peuple tout juste sorti de la guerre. Mais ce n'est pas tout, en fait. Acufone s'est donné pour mission de remettre à notre disposition, pour nos oreilles, les perles d'Asie, de Taïwan, de Bali, du Laos, du Japon, du Sri Lanka, du Cambodge et aussi de la Pologne. En 4 ans, ce label a sorti 22 albums qui nous garantissent un voyage assis de casque sur la tête. Et ce qui est frappant, c'est qu'une fois qu'on a jeté une esgourde en fait sur ces stars d'hier, ces mondes oubliés, un peu remis comme ça à la lumière du disque, on comprend un peu mieux le monde et sa globalisation. Mais bon, parlons zizik tout d'abord. Alors je vais choisir 2 artistes. La première, c'est Lily Chao. Cette femme naît à Taïwan jusqu'après la guerre en 48. Et puis plus tard, elle voit sa vie d'étudiante s'arrêter toute nette. Bah, parce que sa famille est criblée de dettes, sa mère surtout. Et elle doit nourrir tout le monde. Donc elle devient chanteuse de cabaret.
Il y avait bien une chose dont elle n'avait pas envie, c'est d'être chanteuse de cabaret. Elle s'en fout complètement, sauf qu'elle est obligée de le faire. Hein. Et sur scène, elle met toutes ses concurrentes à l'amende sur fond de pop-rock 60s, franchement ricaine, et en adaptant des vieilles chansons chinoises. C'est-à-dire qu'on peut lâcher du lest, mais pas trop, parce que le grand frère veille. Sauf que Lili Chao, ben, c'est pas la joie, et elle n'est pas au rendez-vous la joie. Son surnom sur scène, c'est la Reine des Glaces. Personne ne se souvient de l'avoir vue sourire. Et je vous passe le reste de son histoire, sinon Alex, il va encore pleurer. Mais c'est justement
dans cette
mélancolie en fait, qu'elle porte, c'est ce qu'on entend derrière moi, en elle, et qui transparaît dans sa voix, qui fait qu'on ne l'a pas oubliée. Alors, autre genre, autre pays, le Japon. Et là, la présence de l'armée américaine dans le pays va profondément en fait marquer la musique japonaise. Mais attention, ici, on ne repeint pas du sol au plafond. Hein. On garde dans les textes et la provenance d'une identité toute japonaise, faite de cerisiers en fleurs, de guerriers habiles, de geisha aussi belles que soleil qui se lève, etc. Et la star de cette époque est aussi une actrice ultra populaire. Elle s'appelle Shimieri. Elle emballe le tout sur fond de jazz, de mambo. Et on s'aperçoit vite, en fait, que toutes ces chansons sont aussi une sorte de réponse à l'Occident. Et si les rythmes sont apportés, ben les textes choisis occupent souvent une résonance avec le sentiment d'être occupé, de vouloir se réapproprier une identité. Et les gens du label Acuphone font un travail assez titanesque. Chaque disque sorti doit ressembler à un parcours du combattant. Faut tout récupérer, les infos, les... Et nous, on en profite, on est content. Gros plan Mambo avec Chimieri et cette chanson Okusa Bushiki qui raconte les affres d'un mec à la sortie de la guerre, à qui la guerre n'a pas fait que du bien et qui traîne sa carcasse de bar en bar.
待ってたよ。あんまり遅いので来られないや。飲んでしまったよ。おこさでおこさで本当だね。 どんな紅茶忍んでくるによ。なんで提灯こらやのやつけてきたによ。おこさでおこさで本当だね。 鶏夜明けのカラスよ。泣けば別れのこらやのや。朝になるよ。おこさでおこさで本当だね。
Chewbacca, qu'est-ce qu'on a entendu là?
Ah bah, la Chimieri, c'était génial, non?
Ouais, Okusabushi.
C'est exactement ça. Ouais. Et le label, c'est Acuphone. Alors, vous pouvez trouver Acuphone sur le net, hein, sans problème.
Acuphone. Ça s'écrit comment?
Alors, A-K-U-Phone.
Ok.
Ouais, c'est pas mal, là. C'est pas mal.
On peut
chez tous les
bons
disquaires et tout ça. Et puis surtout, ils produisent aussi le nouveau lien qui se fait entre ces musiques d'hier et d'aujourd'hui. Et voilà, bon, c'est des fois on écoute toute la discographie d'un artiste et des fois on peut écouter toute la discographie d'un label. C'est ce que je fais et c'est pas plus mal.
Acuphone, donc très bien. Merci beaucoup Chewbacca pour cette découverte. Nous sommes en compagnie de Sylvie Paré qui est enseignante à la Maison d'arrêt de Nanterre et qui est directrice du centre scolaire. Vous écoutez France Inter par Jupiter. Il est 17h36 à Fresnes et il est 11h30. 36 à Guantanamo, où la météo est assez clémente, il fait un petit peu chaud, un petit peu plus de 30 degrés, donc il fait très très chaud. Sylvie Paré, à côté de vous, il y a Guillaume Meurice.
Ben moi aussi, j'ai eu un gros coup de cœur ce matin dans le 7-9 pour ce fameux Mathieu Laine. Oh la beauté! Alors, il est chroniqueur au Figaro et au Point. Déjà, c'est vrai que ça vous pose un homme. Charline, déjà sur le bon coin pour chercher une robe de mariée. Il a un discours sublime qui ferait passer Alain Minc pour un zadiste, notamment sur l'écologie. Allez, on aime, on vous en parle.
En réalité, les pays les plus développés sont les moins polluants.
Et voilà, quelqu'un qui ose dire la vérité, ce sont les pauvres qui polluent. D'ailleurs, j'ai déjà vu un enfant au Bangladesh mourir à même le sol, hein, sans souci de ramper jusqu'au bac à compost. C'est scandaleux, quoi. Il était habillé en sac plastique. Voilà, si un dauphin passe par là, bravo. Bravo la responsabilité. Ce sont des gens, on le sait, les pauvres qui adorent polluer. Donc nous, les Occidentaux, pour leur faire plaisir, ben, on fait produire tout chez eux. On leur envoie nos déchets. Et même parfois Robert Ménard, qui part en vacances là-bas, parce qu'ils aiment ça. Et les riches, voilà, ils ont d'autres passions. Ils aiment autre chose. Alors, par exemple, les riches, ils aiment la gestion de patrimoine. Je le sais parce que je suis allé ce matin au grand congrès du secteur. Alors, pour vous donner une idée, le prix d'entrée au congrès, 588 euros. Ah, ça vous calme les crevards, hein? Ça vous change des punks à chiens que vous diffusez, Chewbacca, hein? Alors, commençons. Comment se porte le marché des riches?
Le marché se porte bien. Aujourd'hui, le marché français est quand même notre principal marché. En sachant que nous sommmes une compagnie qui proposons des solutions uniquement en unité de compte.
Donc, le marché des riches se porte bien.
Le marché des riches se porte bien. Et donc, si le marché des riches se porte bien, tout le monde se porte bien.
Ah, on est sûr de ça?
En tout cas, nous portons bien.
Voilà, oui, ça fait plaisir, voilà, de voir des gens de bonne humeur comme ça. Il y en a assez, des pauvres qui font la gueule tout le temps. plus rien à bouffer, le 3 du mois. On va voir les spectacles d'Alex Vizorek avec Bière et Duc. Heureusement qu'il existe quand même des riches, notamment pour s'occuper du climat. Parce qu'il faut arrêter avec cette information comme quoi les riches polluent plus de 2000 fois plus que les pauvres.
C'est juste faux, une idée reçue.
Donc les riches polluent pas plus que les pauvres?
Peut-être même moins.
Ah ouais?
Oui, parce qu'on se cultive en matière de développement durable.
Ah oui, et le pauvre ne se cultive pas?
Il se cultive, mais il peut peut-être moins répondre à des exigences qui nécessitent parfois des investissements financiers.
Et oui. Le pauvre, par exemple, n'a pas de panneau solaire sur son carton, alors qu'il passe la journée dehors. Et c'est vraiment très con, il pourrait produire de l'énergie. Le pauvre, il fait son malin parce qu'il prend pas l'avion, mais il boit du vin plein de pesticides. Voilà, bravo, monsieur le pauvre. Alors, désolé de clasher les pauvres, mais bon, il y a un moment donné, ce n'est pas responsable comme comportement. Alors, soyons quand même magnanimes avec le pauvre, parce qu'au milieu du congrès de la gestion de patrimoine, il y a, je vous jure que c'est vrai, la remise du grand prix de la philanthropie. On se dit gestion de patrimoine et philanthropie, c'est un peu comme Pascal Praud et prix Nobel. Eh ben non.
C'est juste une idée reçue, parce qu'en réalité, la démarche de conseil, c'est précisément de la philanthropie, contrairement à ce que l'on peut penser.
Mais oui, parce que l'on peut penser que c'est juste pour gagner plus d'argent.
Pas du tout. La philanthropie, c'est vraiment là, dans la démarche de la gestion de patrimoine, d'être en empathie par rapport aux objectifs de ceux qu'on conseille.
Excusez-moi, putain, c'est hyper beau. Non, c'est hyper beau. C'est ça, la philanthropie. Voilà. Souvent, les gens qui bossent dans la gestion de patrimoine sont des gens qui ont hésité entre ça et l'humanitaire. Ça, on le sait que trop peu. L'abbé Pierre ou la BNP. Eh ben voilà, ils n'étaient pas sûrs. Hein, ils ont dû faire un choix. D'ailleurs, la BNP était là aussi. Et alors, la BNP, ils sont tellement concentrés sur la philanthropie que d'habitude, ils veulent pas me répondre. Ils n'ont pas le temps, la philanthropie, ça prend énormément de temps. Mais bon, là, on était tranquille, on était entre philanthropes, et la chargée de com, elle était en forme. Je n'ai même plus lui parler de la philanthropie de la BNP dans les paradis fiscaux.
Non, mais ça, c'est pas pareil.
Ah.
Parce que ça, c'est des rumeurs, c'est pas vrai.
Ah, c'est pas vrai? Ah mince.
En tout cas, pas moi.
Oui, pas vous, personnellement.
Moi, non.
Et la BNP en général, c'est des rumeurs alors c'est...
Non mais tous les patrons, on le sait bien que tous les patrons prennent de l'argent partout.
Quand c'est la BNP, est-ce que c'est pas un problème?
Mais si, c'est un problème. Mais dans ces cas-là, on vit dans un monde des bisounours.
Non, on ne vit pas chez les bisounours. Si c'était le cas, la BNP défiscaliserait les bisous, hein, ils optimiseraient les câlins, ils feraient des OPA hostiles sur les papouilles parce qu'ils veulent un monde meilleur. Comme tous les gens de ce congrès, la preuve ultime, ils avaient convié parmi tous les jongleurs de lingots, l'association Les Petits Frères des Pauvres. Alors là, on était sur un niveau de what the fuck assez impressionnant. Mais allons les voir. Pourquoi ils étaient là au milieu des gestionnaires de millions?
Parce que c'est important qu'ils puissent, au-delà de faire gagner de l'argent à leurs clients, ils puissent aussi les interroger sur leurs projets en matière de philanthropie.
Mais est-ce que c'est pas de la faute de leurs clients, justement, qu'il y a des pauvres?
Je crois que dans toute société, il y a des riches et des pauvres, et que les riches sont aussi conscients et sont prêts à faire des choses. Mais souvent, et préfèrent le faire par eux-mêmes que par l'impôt.
Voilà, voilà. Et... souvent le riche aime bien faire les choses, mais de son côté. Voilà, c'est pour ça que quand il est dans son jet privé ou dans son Hummer, eh ben, le riche, des fois, ben, il like un tweet de Yannick Jadot pour compenser. Parce qu'il fait, il fait des petits trucs de son côté. Et ça, c'est beau. Alors, bravo les riches, bravo Mathieu Laine, hein, qu'on salue, bravo les gestionnaires de patrimoine. Peut-être même qu'un jour, ils s'apercevront qu'on a un seul patrimoine qui s'appelle la planète Terre.
Merci Guillaume Meurice. Vous avez de bien belles activités.
Ah, j'aime beaucoup. France Inter. Je me suis fait plein d'amis.
Il est 17h42, vous écoutez Par Jupiter. Sylvie Paris est avec nous, elle dirige le centre scolaire de la maison d'arrêt de Nanterre. Et on va aborder cet autre thème sur l'idée de la démocratie participative qui prospère partout en France, à tel point que les start-up proposent de la facilité via des plateformes et des applis. La démocratie participative, elle est donc aussi un marché. Mais là où parler citoyenneté a le plus de valeur, est-ce que c'est pas chez ceux qui en sont momentanément privés? Le gouvernement a voulu que le grand débat franchisse les murs de nos prisons.
Et on pourrait pas se poser la question de la cantine, là, qu'on mette de la vraie bouffe pour une fois? Non, il faudrait changer la bouffe à la cantine, je vous assure. Parce que l'histoire des 5 fruits et légumes, là, c'est pas faisable. Ah non, c'est des trucs de fiottes.
Monsieur.
Non, je vous assure, c'est important.
Monsieur, s'il vous plaît. On peut recentrer le débat sur des préoccupations plus essentielles?
Ah bon, excusez-moi. Évidemment que ça ne vous intéresse pas, la bouffe. Vous êtes une crevette. Ça bouffe que du plancton, une crevette. On prend le problème à la base. C'est ça qui nourrit le ciboulot. Faut pas se torcher le cul avant de chier.
Benoît Poulvord, Isabelle Huppert, dans Mon pire cauchemar, le film d'Anne Fontaine. Sylvie Paré, c'est l'exact contraire qui s'est passé dans le grand débat de ce qu'on vient d'entendre, qui est évidemment caricatural, où on parle de la bouffe et de la préoccupation quotidienne. Il y a un grand débat qui a été organisé à la maison d'arrêt de Nanterre. Il s'est passé comment et quels thèmes ont été abordés?
Alors, il y en a même eu deux. Donc, moi, je vais parler de celui que j'ai organisé, puisque l'autre, je n'y étais pas. Donc, on est parti de la lettre d'Emmanuel Macron, qui a été lue dans toutes les classes. Donc, il y a 15 classes différentes. Dans toutes les classes. Et à partir des 4 questions, ils ont rédigé des doléances. Et ensuite, on a invité une députée à venir participer au grand débat. Et comme tout le monde ne pouvait pas y participer, ils ont élu dans chaque classe un représentant qui allait être leur porte-voix. Donc c'était assez intéressant parce que, enfin, même dans les classes d'alphabétisation, c'était vraiment tous les niveaux de classe, quoi.
Ah oui.
Et l'idée, c'était, je comprends très bien, leur quotidien, c'est la prison, c'est effectivement ce qu'ils ont dans leur gamelle, comme ils appellent ça, etc. Mais je voulais qu'ils dépassent les murs, qu'ils aillent au-delà et qu'ils se projettent dans le fait que demain, ils seraient dehors.
Et c'est ce qui s'est passé. Ouais, ils ont abordé des thématiques qui étaient bien au-delà de leurs 4 murs.
Oui, qui étaient vraiment intéressantes sur notamment l'environnement. Enfin, il y a vraiment des choses très intéressantes. Et bon, la dernière demi-heure, ils ont pu se lâcher un peu sur leur quotidien, effectivement, mais ils ont tenu quand même 1h30 sur « Demain, je suis dehors ».
Ouais.
Ça, c'est bien.
Alors, vous l'avez rappelé, c'est une initiative du gouvernement et vous avez lu la lettre d'Emmanuel Macron en classe. Est-ce que ça a suscité de la méfiance, ça, ou pas du tout?
Vis-à-vis des détenus?
Oui, c'est-à-dire que bon, bah, c'est une proposition du gouvernement, donc est-ce qu'il y a eu un peu un côté « Oh, bah, si c'est le gouvernement ?» Ça n'a pas été un frein
non,
du tout?
Non, ça n'a pas été un frein parce qu'on l'a présenté plus comme un travail pédagogique. Bon, la lettre, j'ai trouvé assez pédagogique, effectivement, mais surtout très longue. Donc on a essayé de...
Ça a été du boulot.
Voilà, ça a été du boulot au niveau français, c'était assez intéressant. Et donc, vraiment, ce qui était intéressant, c'était leur doléance, c'était surtout qu'ils arrivent enfin à se projeter, quoi. C'est ça qui m'a semblé essentiel.
Ouais. Mais se projeter au point, par exemple, d'aborder des questions comme la transition écologique, ce genre de choses, parce que chez nous, c'est une préoccupation qui est quand même principale dans le pays et à l'échelle de la planète, dans les pays aussi très développés. Mais en prison, quand on est dans cette situation, est-ce qu'on pense à des thèmes comme l'écologie?
Oui, on y pense. En plus, on est en train de faire... le projet de la prison de la chef d'établissement, c'est sur le développement durable. Donc on a créé un potager, il y a une ruche.
À la maison d'arrêt de Nanterre.
Et par exemple, oui, je pense qu'ils sont intéressés parce que ils jettent de leurs cellules par les fenêtres tout ce qui les gêne dans leurs cellules. Donc ils ont réussi à découper un peu les petites grilles et puis on a des trucs qui passent, mais des gros morceaux de pain, des plastiques, de tout. Enfin bref. Ouais. Et à l'endroit où il y a le potager, il y a pourtant beaucoup de cellules qui donnent dessus. Et j'étais estomaquée, il n'y a pratiquement plus de déchets. Donc ils ont un respect de ce qui, de ce qui est beau, de ce qui est bien, de ce qui est entretenu par d'autres détenus en plus, par rapport à des cours qui sont complètement bétonnés, où là, ils ne vont pas hésiter à balancer dedans. Bah, ce respect du beau, et puis leur donner à voir aussi qu'on peut faire des choses intéressantes et belles. Voilà, oui,
et puis beaucoup aussi ont des enfants et pensent à l'avenir de leurs enfants, j'imagine. C'est quand même très neuf et symbolique d'avoir un grand débat qui s'organise en prison. C'est quoi les espaces de dialogue quand on est en prison ? Est-ce que dialogue et citoyenneté, c'est dans les classes, dans l'école, avec vous ? Mais en dehors de ça, en dehors du parloir où il y a peut-être dialogue avec son avocat, avec la famille, l'espace de dialogue, il est où ?
Alors, en dehors de ça, il y a aussi le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le SPIP.
Le SPIP
qui organise aussi des débats autour de la citoyenneté, des ateliers autour de ça. Il y a pas mal de lieux, en fin de compte, dans la prison où on peut discuter. Après, il y a des détenus qui veulent rien, mais strictement rien. Donc là, effectivement, on ne va pas les obliger non plus, puis ce ne serait pas productif. Ouais. Mais honnêtement, pour ceux qui veulent faire quelque chose et qui veulent avancer, je trouve qu'on leur apporte beaucoup de réponses. Ouais.
Et on salue ceux qui nous écoutent peut-être,
n'est-ce
pas, depuis leur cellule par Jupiter, France Inter, et ils vont entendre Constance, qui est avec nous comme tous les mardis.
Bonjour. Alors moi je m'appelle Annabelle et je suis une adorable petite fille. Si, je suis vachement mignonne. Je suis venue ici. Pardon, c'est un peu fort. Je suis venue ici parce que je me suis reculée pourtant.
C'est une fois par chronique avec vous.
Je suis venue ici parce qu'on m'a obligée. Parce que moi je voulais faire mon stage sur Énergie 12. Parce que là-bas les gens ils sont beaux, ils sont bien payés. Mais France Inter c'est un peu trop la radio que ma vieille tata Gisèle qui s'en m'en veut de la bouche, elle écoute toute la journée. Bref. Maintenant vous m'écoutez. Alors le mercredi c'est le jour des enfants et demain c'est le mercredi 12 juin, et c'est la journée mondiale contre le travail des enfants. Vous avez entendu, les adultes, contre le travail des enfants. J'ai choisi ce thème pour mon exposé parce que je suis sur le popotin des chiffres que je découvre en faisant des recherches sur mon Mac que j'ai eu à Noël. D'abord j'ai eu un PC, mais comme c'était trop nul je l'ai jeté par terre en hurlant, et j'ai dit les PC c'est trop nul et mes parents ils sont achetés un Mac pour moi parce que c'est normal. Voilà. C'est des vrais égoïstes, mes parents. Des fois, franchement, j'ai envie de les attaquer en justice parce qu'ils sont trop moches et ils voudraient que je fasse comme si je les connaissais quand ils viennent me chercher à la sortie de l'école. Et ils pensent jamais à ma réputation, je les déteste, mais je fais semblant de les aimer, comme ça ils me donnent des cadeaux. Il paraît que dans le monde, il y a plein d'enfants qui vont pas à l'école. Trop de la chance! Trop de la chance! Moi j'aime pas ça à l'école! Oh là là! Puis bientôt je vais porter plainte contre ma maîtresse parce qu'elle fait que nous maltraiter pendant la classe, elle dit qu'on n'a pas le droit de parler. On n'a jamais le droit de couper les cheveux de sa voisine ou de graver des croix gammées au cutter sur sa table. Alors franchement, l'autre jour, carrément, elle m'a dit chut. Oh la pute. 179 millions, c'est le nombre d'enfants qui sont soumis aux pires formes de travail et qui mettent en péril le bien-être moral, physique et mental. Croyez-moi, ça ne me fait pas plaisir d'inclure mes parents dans ces chiffres, mais je suis bien obligée de vous parler de mes parents qui m'obligent à ramasser mes vêtements sur le sol pour les mettre dans le panier de linge sale, comme si la boniche était la maison, elle n'était pas déjà payée pour faire ça. Moi, je suis une pauvre petite fille qu'on est obligée de travailler. Pendant ce temps, Maria, la boniche, elle est payée à rien faire. C'est odieux. De toute façon, bientôt, vu qu'elle a pas ses papiers, je vais la dénoncer à l'immigration. 8,4 millions d'enfants dans le monde sont esclavagés, prostitués ou enrôlés dans des forces armées. Franchement, c'est pas joli, joli les adultes, votre monde. Hein. Ma mamie a dit toujours c'était mieux avant, parce qu'il y avait plus d'entraide. L'autre jour, il y avait un monsieur, il criait dans la rue dans sa camionnette. La vieille radine, elle a jamais voulu lui donner une pièce alors qu'il disait « Des glaces, qui veut des glaces ?» Quelle salope. Souvent les adultes, vous déculpabilisez en disant que le travail des enfants, c'est que dans les pays en voie d'extinction et que vous y êtes pour rien. Mais 10 millions d'enfants ont des activités directement liées à l'exportation, dans le textile, l'agriculture par exemple. Alors je suis peut-être une petite peste égoïste et insupportable, mais c'est vous qui m'avez créée, je suis à votre image. Alors allez me chercher un McDo et fermez-la. Et je vais aller à la fenêtre, je vais cracher sur des gens qui passent parce que j'ai fait un jeu. Et si la personne est chauve, c'est 100 points. Si elle est aveugle et chauve, c'est 300 points.
Merci, Constance, Annabelle, avec des couettes. Annabelle. Merci, Annabelle. C'était très éclairant sur votre génération. Hein. 17h51 par Jupiter. Vous pouvez revoir Constance, alias Annabelle, sur les réseaux et sur franceinter.fr. Avec Sylvie Paré, qui dirige le centre scolaire de la Maison d'arrêt de Nanterre, on entame le dessert de cette émission, donc le troisième sujet. Pour la première fois, les prisonniers ont pu voter par correspondance pour les européennes. Avant, ils n'étaient autorisés à le faire que par procuration ou lors d'une permission de sortie. Plus de 4000 d'entre eux ont rempli leur devoir de citoyen pour ces élections. Et qu'ont-ils voté? Eh bien, essentiellement, ils ont voté pour la France Insoumise et le Rassemblement National. La France Insoumise, dans les prisons, a fait 20%. Comme dans beaucoup d'entreprises, là...
On ne sait pas quoi on est derrière, mais...
On va voir. Ou là, mais non, mais on les... Distinguer les Insoumis du Rassemblement National, même c'est partout, ça, dans les entreprises, on les repère aussi. Hein.
Je me disais, Marine Le Pen, elle a fait à peu près 33%.
Oui.
Ça fait quand même 3 Français sur 10.
Eh ben oui, hélas, hein, c'est beaucoup.
Donc potentiellement, il y a 3 personnes sur 10 qui ont voté pour elle.
Et voilà.
Et je cherche à savoir qui.
Eh ben cherche.
Sophie?
Non, Sophie, c'est une insoumise de la première heure. Elle connaît les discours de Mélenchon par cœur. Qu'est-ce que tu racontes?
Pas du tout. Franck?
Ah ben Franck, oui, c'est un secret pour personne. Il est méchant, sa photo de le profil de Facebook, c'est un drapeau avec une flamme. Il partage pas ses repas à la cantine, il échange des francs à la machine à café, oui. Là, il y a un vrai indice, oui.
Catherine et Liliane, Alex Lutz et Bruno Sanchez. Donc c'est la première fois que les détenus pouvaient voter par correspondance aux européennes. Donc ça veut dire que ça a permis à beaucoup plus de détenus de voter. Comment ils sont mobilisés? C'est quelle proportion à peu près chez vous à Nanterre?
Je sais pas, moi j'ai pas les mêmes chiffres que vous. Donc j'ai 6000 détenus qui ont voté.
Oui,
c'est il y en avait 2000 aux dernières élections. Mmh. Sachant qu'en même temps, les élections européennes, c'est pas ce qui les fait le plus rêver.
Ça, c'est en général, oui. C'est vrai.
Et donc, alors là, pareil, on avait fait tout un travail aussi. On fait un journal qu'on distribue dans toute la détention à tous les détenus. Donc, on avait fait un gros travail sur ce qu'était l'Europe, à quoi servaient les élections européennes, etc. En espérant en avoir beaucoup. Bon, il y a eu 75 votants à Nanterre.
Ouais. Ah bah ça fait 75. Ça, ouais.
Pas mal.
Oui, c'est une manière de rester citoyen, même derrière les
vraiment,
murs, c'est ça c'est,
on ouais. était allé là-dessus. Et en fait, bon, il y en a qui n'ont pas pu voter parce qu'ils sont extraits ce jour-là, parce que voilà, le vote par correspondance s'est fait un jour précis. Et il y en a qui viennent de sortir ou d'autres qui viennent de rentrer. Donc, ce n'est pas évident de trouver le bon créneau pour pouvoir voter par correspondance. Mais il y a eu un gros effort de fait, c'est vrai. Et peut-être une prise de conscience, au moins que...
C'est le début, en tout cas. Donc
ouais,
ça peut
c'est le début,
progresser.
Parce qu'il y a très peu de détenus qui sont déchus de leurs droits.
Et on sent qu'ils votent plus pour des politiciens qui auraient déjà été mis en examen, ce qui permettrait d'avoir une petite projection.
Mais je sais pas, Mélenchon, je sais pas.
Bah non, justement.
Alors, les résultats, c'est comme dans le reste de la population, à peu près. Donc, le Rassemblement National dans les prisons est arrivé en tête avec 23,6%.
Ouais.
Alors, ce qui est amusant, c'est que la France Insoumise, qui s'est quand même bien gaufrée, ils font quand même 19,7% parmi
j'ai
les détenus.
J'ai même 22, moi.
Ah, c'est vrai. Alors c'est donc, moi, je me suis basée sur un article paru sur franceinter.fr et d'après, ce seraient les chiffres du ministère de l'Intérieur, mais c'est vrai qu'il vaut mieux croiser les sources, mais bon, on n'est pas très loin.
Moi, j'ai pris auprès du directeur de la prison.
Ah, d'accord.
Bête,
et la République, pour vous, La République En Marche, ils ont fait combien alors? Ah ben voilà, moi j'ai
comme
le même chiffre. Exactement. Et donc, en fait, là, La République En Marche, qui a fait 22% dans l'ensemble du pays, là, en prison, c'est 9.
Ah oui.
Et il y a des conclusions à tirer de ça? Est-ce qu'il y a une sorte aussi de vote de la colère? Une vote, peut-être, voilà, les insoumis, bon, ils sont insoumis en prison.
Enfin, oui, effectivement, moi, le chiffre du Rassemblement National m'a surprise, mais bon.
Ah oui, ça vous a.
Oui, franchement, je m'y attendais pas du tout.
Ouais. Est-ce qu'il y a des gilets jaunes?
Le travail qu'on avait fait.
Est-ce qu'il y a des gilets jaunes en prison aussi?
Je les ai pas bien vus, non.
Non, parce qu'il y a donc il y a un reportage
détenu.
Ouais. Qui se revendique un peu du mouvement. Ils peuvent
pas
porter le gilet
au début,
disent...
alors énormément.
Ah oui.
Ça s'est un petit peu calmé. Bon, un peu à l'image de la France, en fin de compte. Ouais. C'est
Oui,
c'est une petite fenêtre.
C'est un échantillon.
Ouais.
Gros échantillon.
Un peu différent, mais quand même qui ressemble pas mal. Et par contre, on a effectivement eu en détention quelques gilets jaunes.
Sylvie Paré, je ne sais pas si vos élèves à la maison d'arrêt de Nanterre vont vous écouter, mais on a envie de jouer avec vous.
Évidemment, bah oui. On propose un sketch à l'invité en fin d'émission. Sûr. Alors vous avez votre propre rôle. Mais attention, commençons que vous enseignez en milieu compliqué. Cette fois, la France fait appel à vous pour enseigner au Parlement européen où des nouveaux élèves sont arrivés. Il faut évidemment un petit peu les mettre à niveau. Nathalie Loiseau, c'est Charline.
Oh.
Raphaël Glucksmann, c'est Guillaume. Et je suis Yannick Jadot et vous êtes la maîtresse.
Bon alors, il est où l'ectoplasme?
Non, Madame Loiseau, soyez gentille, n'insultez pas vos petits camarades.
C'est pas un camarade, c'est le candidat de la casque à pointe, là.
Madame Loiseau, soyez gentille, on dit Madame Merkel.
Ouais, bah bonjour l'ambiance dans la classe. Hein.
Silence, est-ce que vous avez tout votre matériel?
Moi j'ai tout mon matériel, madame.
Ah, vous tombez bien, élève Glucksmann.
Mais il a rien, il a que son téléphone.
Une seconde, je suis en plein travail.
Ah, enfin, bon élève.
Merci, madame.
Mais quel faillot, celui-là.
Vous rédigez un rapport sur le droit d'asile, mon petit Raphaël?
Non, je dois faire une photo.
Une photographie de la situation en mer Méditerranée?
Non, une photo pour mon Insta.
Attention, vous êtes en train de copier sur l'élève Jadot.
Je m'en fiche de vos moqueries.
Mais pour qui il se prend ?
Bah pour Géant-Vert.
Madame Loiseau, pour la dernière fois, respectez vos petits copains.
Oui, Madame Loiseau, ne parlez pas comme ça au futur président de la République.
Mais ne me parlez pas, moi je suis venue pour combattre l'extrême droite.
Que vous avez bien connu.
Oui, bah enfin, on m'a dit de dire que c'était pas vrai, alors.
Parlant de ça, où est l'élève Bardella ?
Il est pas là.
Il est allergique.
Au pollen ?
Non, à Bruxelles.
Bah, il le savait avant de se présenter, non ?
Alors, je voudrais pas cafeter, mais ça sent l'élève fictif.
Oui. Ouais. C'est ennuyeux déjà qu'il est très mauvais en mathématiques.
C'est vrai qu'il est archi nul pour compter les immigrés.
Et en histoire, c'est bof bof. Hein.
C'est bête parce qu'il la révise beaucoup, l'histoire.
Bon, en attendant, occupons-nous de Madame Loiseau.
Ah, bah, bon courage.
Mais qu'est-ce qu'il a, le revenant de place publique, là, le dernier socialiste vivant ?
Oh, madame, elle m'embête !
Madame Loiseau, vous êtes punie, direct en cours de communication.
Ah, mais, c'est quoi la communication ? qu'est-ce que c'est ? Merci beaucoup Sylvie Paré d'avoir passé cette heure avec nous et de nous avoir expliqué ce que c'était que d'étudier en prison et enseigner. Je rappelle que vous êtes enseignante à la Maison d'arrêt de Nanterre, directrice du centre scolaire et que vous avez publié il y a 2 ans avec Cécile Doram, votre collègue, « L'école en prison, une porte de sortie » paru aux éditions du Rocher qu'il est toujours possible de se procurer pour approfondir la discussion qu'on a eue pendant 1 heure sur un monde qui est passionnant lui aussi. Merci beaucoup Sylvie Paré, merci à Constance, alias Annabelle, bien sûr, qui a retiré ses couettes. Merci à Djoubaka et ses disques.
Qui a retiré ses couettes
merci.
Également.
Merci. Et Guillaume, c'est la fin de l'émission, alors on va laisser le mot de la fin à Sylvie Paré.
J'ai une jolie histoire. Ouais. La semaine dernière, j'avais un ancien élève qui m'attendait avec un bouquet de fleurs devant la prison. Oh. J'avoue que là, j'étais très émue. S'il m'écoute, je le salue.